saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. J'emprunte à Beaumarchais cette réplique du Mariage du Figaro pour ouvrir une conversation aujourd'hui consacrée à la critique théâtrale, ce drôle de métier qui se nourrit de lois qui lui sont propres, ce qui rend très complexe sa mise en boîte théorique. J'emprunte à Beaumarchais donc cette phrase dont le Figaro a fait son slogan ricochet qui paraîtra curieux à mon invité de ce jour puisque Jean-Pierre Leonardini qui me fait face au micro pour évoquer son récit autobiographique qu'il crève les critiques paru aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Jean-Pierre Leonardini donc a écrit toute sa vie dans les pages de l'Humanité. Nous ouvrons aujourd'hui le chapitre critique d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art dont les conseilleurs ne sont pas les payeurs, quoique. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bienvenue.
Mon bureau, c'est ce que j'appelle un petit peu mon antre, hein. C'est ma chaumière, c'est ma tente au bord de l'eau. Mais au-delà de cette lumière dont j'ai besoin, parce que je vois le lac, non seulement quand j'arrive, mais depuis mon bureau, comme tous ceux qui travaillent dans cette maison. Alors, il y a des murs blancs, il y a trois murs blancs, il y a donc cette vision sur le lac avec les baies vitrées, et puis il y a trois murs blancs, c'est ce que j'appelle mes murs affectifs, où au hasard, et pas du tout au hasard, ou un peu au hasard, de chaque jour, de chaque saison, je garde une petite photo, une petite note, un petit mot, un petit poème, et je pose et j'accumule, ce qui fait qu'il y a c'est vraiment des strates, quoi, et que ça raconte un petit bout d'histoire, finalement.
Ça raconte votre vie, non ? Ici.
C'est-à-dire qu'elle est pas mal identifiée, oui, quand même.
Et ça veut dire aussi que vous n'arrivez pas à acheter, vous ne voulez rien oublier.
J'oublie tout, mais je garde tout.
Bien, bien. Je vi dia tutti. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Bien, bien. Neanche questo tempo grigio. Pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips.
Bonjour, Jean-Pierre Leonardini.
Bonjour.
Nous venons d'entendre la voix de René González, mort en avril 2012, qui évoquait son bureau, celui qu'il occupait au théâtre de Vidy-Lausanne en Suisse, Gonzalo du Lac, comme certains le surnommaient. À qui vous dédiez ce livre que vous avez écrit et qui vient de sortir aux éditions Les Solitaires Intempestifs, qu'il crève les critiques. J'imagine que le moment où on décide de dédicacer un livre est important et qu'on pèse chaque terme de cette dédicace à la mémoire de René González. Pourquoi René González ?
J'avais de longue date amitié et admiration pour lui. Je crois que ça a été un grand directeur de théâtre, peut-être un intendant, comme disaient les Allemands. Et les aventures qu'il a initiées sont magnifiques. Enfin, il a pris la suite de Valverde au théâtre de Saint-Denis. Il a créé la Maison de la Culture de Bobigny. Il a été un temps à l'Opéra Bastille. Et ensuite, il s'est exilé, comme il le disait, en Suisse, à Lausanne. Et il a fait de ce théâtre au bord de l'eau, le théâtre de Vidy, un lieu magnifique et transfrontalier. Puis c'est un homme chaleureux, très bon, avec un caractère de fer malgré tout. C'est un homme que j'aimais beaucoup.
Il oubliait tout, mais il gardait tout. C'est ce qu'il dit dans ce petit extrait qu'on vient d'entendre. Et vous, Jean-Pierre Leonardini, vous oubliez tout, mais vous gardez tout. Et écrire qu'il crève les critiques, c'est une façon de tout garder.
Oui, c'est une façon de dresser un bilan comme ça d'une existence étrange quand même. Et vous le savez, Joël, aller au théâtre tous les soirs ou quasiment, c'est une étrange vie par rapport à celle de nos contemporains, de tous nos contemporains. Être payé pour aller au spectacle, alors que les gens normaux paient pour y aller. Oui, c'est tout à fait insolite et c'est tout à fait grisant. Et parfois... énervant, parce que c'est une vie pas comme les autres, quoi. Il y a des fois, on ne voudrait pas y aller. On voudrait rester chez soi, avec des amis ou en famille. Je dis ça pour avant, maintenant j'y vais beaucoup moins. Enfin, je suis les choses tout de même. Mais c'est vrai que 50 ans de soirée, Poirot Delpech, le critique du Monde, disait ça au soir, enfin. C'est le titre d'un recueil de ces articles. Oui, et y aller tous les soirs, et même les dimanches après-midi. C'est une vie étrange, mais je pense qu'elle tend à disparaître. Je parle de la critique dans la presse papier, hein, pour l'instant. Je parle de ce moment où il y avait beaucoup plus de journaux et beaucoup plus de gens qui étaient amenés à parler du théâtre dans la presse. Aujourd'hui, c'est différent. Beaucoup de gens en parlent, mais c'est ailleurs. C'est avec d'autres outils électroniques. Enfin, et ça n'est pas la même chose. La civilisation du journal disparaît, c'est indiscutable, et j'en suis très conscient.
Et vous en êtes très malheureux ?
Au fond, oui, puisque c'est la forme que je connaissais, qui a été la mienne. J'imagine qu'un jeune homme ou une jeune femme qui arrive aujourd'hui et qui s'exprime par ordinateur ou sur le web ou par internet a des joies que je peux comprendre, mais qui sont moins belles pour moi que celles... De la chose imprimée, de l'encre, de la rotative, du rapport avec les ouvriers du livre. C'est un monde qui disparaît.
Quelle était la discipline de Jean-Pierre Leonardini au temps glorieux de l'humanité quand vous écriviez quasiment tous les jours ? Lever tôt, coucher tard, écrire le matin, écrire le soir, comment ça se passait ?
Non, c'était souvent écrire au journal même parce que pendant longtemps j'ai dû diriger l'équipe, le petit service culturel que nous étions. Et bon, j'étais présent dans la journée et le plaisir, c'était d'être dans des salles de rédaction, dans des bureaux paysagers, où nous sommes plusieurs, où nous fumons, où nous buvons parfois. On faisait des petites fêtes.
Ou Aragon vient vous rendre visite, comme
parfois,
ça, au déboté.
Parfois, il passait. Mmh. Voilà, il venait voir son ancien camarade rédacteur en chef de Ce Soir, avant la guerre et pendant la guerre, avant la guerre. Et donc, voilà, et c'était à cette époque-là un homme de 60 ans, très élégant, très impressionnant, et qui nous appelait petit. Voilà, il me disait « Bonjour, mon petit ». Il me disait « C'était terrible ». Enfin, c'était Aragon, c'était un plaisir.
Mais écrivons ce récit mémoriel, est-ce que Jean-Pierre Leonardini, c'est aussi une façon d'aller un peu en quête de vous-même, d'une certaine manière, parce que c'est essayer de se ressaisir de la totalité d'une activité qui a été la vôtre. Vous le dites, elle vous a pris tous vos soirs, toutes vos soirées et même vos dimanches. Est-ce que vous avez tenté, à travers Qu'il crève les critiques, de vous réemparer de vous-même ?
Oui, c'est sûr. C'est une façon de se prouver que toutes ces années n'ont pas été vaines, même si c'est un exercice considéré en général comme extrêmement frivole. D'abord parce que la majorité des gens ne vont pas au théâtre, la plupart l'ignorent, ou ceux qui en ont une idée n'ont pas forcément celle qui est la mienne, qui est un théâtre que je peux dire d'exigence, et avec un peu de prétention, un théâtre d'art, disons. Alors que la plupart de nos contemporains, et je ne juge pas, je ne porte pas de jugement de mépris là-dessus, l'ignorent ce que c'est, ignorent ce qu'est le théâtre de service public, avec une grande exigence, de grands auteurs, des metteurs en scène aguerris. Je suis très conscient que c'est encore, sans doute, un métier étrange, extrêmement marginal, et à ce titre, condamné dans la sphère libérale avancée que nous traversons. Il n'y a aucune raison qu'on paie des gens pour aller au théâtre, ou dans les musées, franchement, ou à l'opéra, où les places coûtent un prix fou. Non, je crois que ça va finir, tout ça. Et je suis très heureux d'avoir pu gagner ma vie en faisant ça, voilà, égoïstement.
Alors faire ça, ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est pas jeter trois lignes sur une page de papier, c'est réfléchir à ces lignes, c'est réfléchir aussi à la tournure de ces lignes. J'aimerais, avant d'aller plus loin dans cette émission, vous faire écouter la voix d'un autre critique de théâtre, respecté de tous pour ses papiers dans le monde, une des grandes plumes, comme vous, Jean-Pierre Leonardini, de la critique théâtrale. Je pense que vous ne serez pas en désaccord avec lui. Il s'agit de Michel Cournoux.
Le compte-rendu de théâtre, dans un journal d'information générale, c'est particulier, car sur 100 000 lecteurs du monde, disons, il n'y en a pas 999 000 qui verront la pièce. Donc c'est très particulier. Donc il faut employer, utiliser cet espace imprimé à se faire lire. Et à se faire lire à propos de quelque chose qu'ils ne verront pas. Donc, il faut écrire et il faut que ça soit quelque chose qui arrive ce jour-là, ce soir-là, au lecteur. Et qu'il y ait moyen de transmettre un petit peu de l'âme de la chose. Donc c'est forcément, on bascule forcément dans, en toute modestie, hein, dans la poésie, c'est-à-dire c'est ça la poésie.
Voilà, je pense que vous ne direz pas le contraire, vous Jean-Pierre Léonzandini, qui dans les premières pages des qu'il crève les critiques, affirmait, et c'est vraiment marqué noir sur blanc, que la critique est un art littéraire.
Oui, oui, je pense que c'est un genre littéraire. Je souscris tout à fait à ce que disait Michel Cournot, et c'est très émouvant de réécouter sa voix aujourd'hui, comme ça, enfin, et parce que c'est un homme pour qui j'avais une grande affection et beaucoup de respect. C'était mon aîné, et c'est quelqu'un qui a compté comme exemple dans mon travail. Oui, si ça n'est pas un genre littéraire, ça n'a aucun intérêt. Tout le monde peut donner un avis. J'aime, je n'aime pas. Ce qui compte, c'est la manière dont c'est écrit, dont c'est affirmé. Je crois au style, et je crois à la pensée derrière le style. Enfin, je crois que on pourrait gloser à l'infini là-dessus. Oui, lorsqu'il parle de poésie, finalement, c'est une revendication d'écriture, une revendication d'écrivain. Je souscris tout à fait à ce que dit Michel Cournot.
Mais est-ce que c'est pas douloureux, parce que ça aussi vous en parlez dans le livre, Jean-Pierre Léonardini, est-ce que c'est pas douloureux au fond de faire le deuil de ces gens qu'on n'enverra pas voir le spectacle? C'est-à-dire, on le sait, on va être lu, on sait qu'on ne convaincra pas plus qu'on ne fera renoncer d'ailleurs, mais donc il faut se dire qu'on écrit pour autre chose que pour ça?
Elle est très fine, la question que vous soulevez. À qui s'adresse la critique? Aux artisans du spectacle, à l'auteur s'il est vivant, aux metteurs en scène, aux acteurs, aux décorateurs, aux scénographes, à celui qui a fait les lumières, le son, aux musiciens, à celui qui a vu le spectacle, à celui qui ne le verra pas, mais celui-là, on ne sait pas s'il ira l'article. C'est toujours l'inconnu absolu. On ne sait pas. Donc, ne pas trop penser à ça. Pensez que si ça tombe sous les yeux de quelqu'un, ça peut le séduire. C'est un pari stupide. Mais que faire? Je veux dire, il y a un moment où on se demande ça et après on n'y pense plus. Disons qu'après on pense beaucoup à ceux qui vont lire et ceux qui sont les artisans du spectacle, qui sont quand même nos premiers interlocuteurs. Mais le lecteur aussi, celui qui achète le journal pour avoir un point de vue sur l'art ou sur autre chose. Ensuite, il faudrait savoir quelle est la proportion des gens qui achètent un journal et qui lisent la page culturelle et qui s'intéressent pour le théâtre. On n'en finirait pas.
On rentre de plus en plus dans les niches.
Voilà, c'est vrai. Disons qu'il faut faire ça en toute innocence feinte, sans cynisme, mais voilà.
Il y a aussi autre chose que vous dites de manière très très claire et limpide, et moi j'aime beaucoup lire ça sous votre plume. Vous écrivez « N'accordons aucun crédit au leurre de l'objectivité, sœur jumelle de la neutralité, je peux m'abriter sous l'aile de Baudelaire, pour qui la critique doit être partiale, passionnée, politique. » Pas d'objectivité, ça n'existe pas l'objectivité.
Oui,
l'absence de parti pris, ça n'existe pas.
Oui, je pense que
l'impartialité, c'est un leurre.
Je pense que c'est un leurre démocratique pour avoir la paix en général, mais non, ce qui compte, c'est l'opinion personnelle. C'est ce qu'on peut demander à un critique, quand même. Il est très difficile de demander à un critique d'être impartial, objectif. Non, non, c'est un acte passionnel aussi. Enfin, il faut s'y mettre en entier. Après, évidemment, on peut faire ça avec plus ou moins d'élégance. On peut se conduire comme un goujat ou comme quelqu'un qui raffine sur la pensée. Je crois qu'il vaut mieux faire ça.
Mais comment rester élégant quand on n'a pas aimé et qu'on va expliquer pourquoi on n'a pas aimé Jean-Pierre Léonardini? Parce qu'on sait que vous, justement, l'élégance, elle est en vous de toute façon, mais elle était effectivement inscrite dans toutes vos chroniques de l'humanité. À quoi vous étiez vigilant justement pour ne pas sombrer dans ce qui aurait été de l'ordre de la méchanceté ou de la violence ou de l'agression?
Je crois que ce qui peut aider, c'est l'ironie et l'humour. Je crois que si on veut ne pas être une brute, c'est ça qu'il faut manier. Donc ça suppose de la part du lecteur des lunettes à focale un peu finaudes aussi. Il faut qu'il puisse être complice de ce qu'on raconte. Mais la démolition absolue, non, c'est ridicule. Enfin, non, on ne peut pas faire ça. Même si on peut être très vache parfois. Enfin,
hein. France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Il y a quelqu'un dans ce livre très beau, Jean-Pierre Léonardini, dont vous dites, comme il nous manque 26 ans qu'il n'est plus, j'entends toujours sa voix. Cet homme, c'est Antoine Vitesse. Je voudrais vous le faire entendre, justement. Et il s'explique dans le court extrait que vous allez écouter sur les raisons qui l'ont amené vers le communisme.
Le mouvement par lequel un jeune homme, ou un plus âgé, va vers le communisme, c'est évidemment pas pour devenir un tortionnaire. C'est pas par plaisir d'exclure les autres. Ce n'est pas pour faire du mal aux autres. Ce n'est pas pour se considérer comme le plus fort. C'est pas parce qu'il pense que la race blanche vaut mieux que les autres. C'est pas parce qu'il pense que les hommes sont plus intelligents que les femmes. Ou le contraire. C'est pour des raisons qui ne sont que des raisons de bonté. Aragon disait ça. De bonté. Et je crois que lorsqu'on va vers le communisme, c'est parce que l'on a une certaine idée, excusez-moi d'employer ce vocabulaire théologique, de la bonté. Mmh. Et je ne renie absolument rien de ce mouvement.
Voilà, je voulais vous faire entendre Antoine Vitesse, Jean-Pierre Leonardini, pour deux raisons. D'abord parce qu'il parle de bonté. Je trouve que c'est pas mal d'entendre quelqu'un revendiquer la bonté comme étant le moteur d'une adhésion politique. Et évidemment, la deuxième raison, c'est parce qu'il était communiste et que vous-même, travaillant à l'Humanité, je ne sais pas si ça a précédé votre entrée à l'Humanité ou si ça l'a suivi, mais vous avez pris votre carte au parti le 14 mai 1958.
Oui.
Et je ne pense pas que vous l'ayez rendu.
Non.
Donc vous avez ça en commun avec lui, en plus d'avoir évidemment beaucoup d'autres choses, puisque vous avez écrit un livre sur Antoine Vitesse. Est-ce que le fait d'avoir été un critique communiste ou marxiste, ça a changé quelque chose dans votre façon d'écrire, dans votre façon de regarder le spectacle, dans l'analyse que vous faisiez des spectacles et du théâtre, Jean-Pierre Leonardini?
Non, on peut dire que c'était consubstantiel, mais je ne me suis jamais dit « tu vas faire une critique... » marxiste, résolu, fondamental, théorique. Mais je sens que c'est inné. On est fabriqué philosophiquement, culturellement. Mais je ne me suis jamais dit « je vais faire une critique de parti ». Non. Mais ça n'est pas indifférent. Quand j'écris, je sais à quoi je me réfère. Mais je ne brandis pas un drapeau tout le temps. Enfin, ce serait ridicule, je trouve. Je trouve que Antoine, encore une fois, Antoine Vitesse parlait d'or. C'est très juste ce qu'il dit. Il ne prend pas sa carte du parti pour fabriquer le goulag, enfin. C'est tout à fait autre chose. Et là, il a raison de parler de bonté. C'est une résurgence du discours humaniste tout à fait intéressante, quoi, et qui va contre beaucoup d'idées reçues et cruelles contre cette idée-là. Quel qu'était le devenir des sociétés qui se sont établis au nom du communisme. C'est autre chose. Plutôt, c'est la même histoire, mais vu du côté repoussant.
Vous racontez, dans votre récit, Jean-Pierre Leonardini, moi je l'ignorais, qu'en 1972, on vous propose d'écrire au Monde, et que Bertrand Poirot-Delpech, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, vous dit « Venez, chez nous c'est très confortable, vous pourrez être encore plus marxiste qu'à l'Humanité. »
Oui, c'est vrai.
Mais et vous n'y allez pas.
Non, j'ai hésité, parce que c'était glorieux, c'était flatteur, j'étais encore un homme jeune, c'était la reconnaissance de quelqu'un d'important, pour Delpech, c'est quelqu'un, enfin, puis le journal, non, mais cette question d'instinct de classe, c'est pas, j'ai pas envie de, si, ça me tentait, mais je me suis dit, je reste avec les miens, c'est comme ça, c'est tout. Et alors le Monde à l'époque était très à gauche, c'est après 68, donc avec l'université et tout ça, ils sont vraiment à gauche, quoi.
C'est le à l'époque.
Le monde change, tous les mondes changent.
Mais c'est fou parce que vous avez quand même, entre guillemets, grandi intellectuellement à une époque où la pensée abondait. En France, vous citez à un moment tous les philosophes qui étaient débattus, mais vous parlez de Foucault, Benjamin, Garaudy, Althusser, Derrida, Rancière, Lacan, Debord, Che Guevara, Régis Debré, Julia Kristeva, et puis ces metteurs en scène que vous escortez au fil des pages, que sont Planchon, Chéreau, Jean-Pierre Vincent, André Engel, Jacques Lassalle, enfin bon, je vais m'arrêter là dans l'énumération. Ces années 60-70, c'était un bain bouillonnant.
Jusqu'aux années 90, je crois. Oui.
Ça a été déterminant pour le critique que vous étiez, que vous êtes devenu dans votre construction à vous,
Jean-Pierre Leonardini. Oui, parce qu'il y avait un climat intellectuel très riche de belles oppositions, puis des bagarres d'ordre politique aussi, enfin, c'était pas négligeable. Mais tout ça, ça nourrissait. Pour quelqu'un de jeune, de curieux, qui débarque de sa province, c'est grisant, il y a toujours une espèce de vertige balzacien quand on débarque. Et on veut être au courant de tout. Enfin, je voulais être au courant de tout, je lisais au maximum des choses. Donc, mes universités, ça a été le journal et je suis autodidacte, comme on dit. Et il fallait que je bouffe du savoir. Alors, en désordre, hein. J'avais pas de méthode. On apprend sur le tas. Mais c'était bien. Et c'est vrai que ça bouillonnait. Je sais pas, les cours d'Althusser, Lacan en même temps. On voyait de loin où on achetait les livres. On en parlait entre nous. Mais c'était tout à fait grisant et excitant. Il y avait des choses là qui se passaient de l'ordre de la pensée et de la création aussi. Mmh. Parce qu'on a découvert de très beaux artistes. Le Festival de Nancy, à cet égard, a été capital.
Festival de Nancy qu'avait fondé oui. et que dirigeait Jack Lang. Je voudrais qu'on ne se quitte pas, on n'est pas encore tout à fait à la fin de cette émission, Jean-Pierre Leonardini, mais quand même qu'on ne se quitte pas sans passer par la voix d'un compagnon, d'un ami, d'un poète politique, d'un tribun, inspiré de quelqu'un qui vous manque et qui manque en fait vraiment à tout le monde, c'est Jack Ralit. Il était interviewé en 2015 par Jean Lebrun qui lui demandait pourquoi il allait au théâtre et est-ce que c'était pour lui le théâtre.
C'est à l'endroit où la pensée et l'imaginaire sont constamment présents. Et c'est la source des idées, la source des visées, parce que j'aime dire visées qu'idées. Et au théâtre, tout le programme de Villard est marqué de ça. Vitesse est plus distancée, mais il est aussi marqué de cela. Mais s'ils sont différents, c'est que Villard était du temps des fissures, tandis que Vitesse, du temps des fractures. C'est beaucoup plus douloureux, n'est-ce pas ? On s'en nourrit. Moi, j'ai une phrase de Hugo, là. Je l'ai copiée pour pas l'oublier. La vie est une poésie ininterrompue. Et ben le théâtre aussi. Et on a à apprendre, on a à picorer, et même à pirater, pour reprendre un mot d'Aragon, à qui je disais, cet après-midi à l'Assemblée nationale, je t'ai cité sans le dire. Il m'a répondu, je suis content. Parce que ça veut dire que ma langue passe dans la langue. Et puis il s'est un petit peu arrêté, puis il a dit, mais tu sais, j'ai été un sacré pirate.
Il avait drôlement le sens de la phrase, de magnifique, la formule, de la pensée, Jack Ralit. Est-ce que, justement, au regard de ce qu'on vient de dire, Jean-Pierre Leonardini, vous avez le sentiment que le théâtre est toujours accompagné de penseurs dignes de ce nom? Parce que même Antoine Vitez était un penseur du théâtre, il a laissé beaucoup d'écrits sur le théâtre aux éditions POL notamment, qu'on peut les lire là.
Je ne sais pas, j'ai peur de dire quelque chose de cruel, mais il me semble que c'est moins intense. Il me semble que nos jeunes gens de théâtre, ceux qui arrivent pour la plupart, recommencent d'un peu loin, comme si justement tout ce travail-là de pensée, de réflexion avait été plus ou moins balayé. Nous sommes dans une autre période. Les périodes dont je parle, celle qui a été mon âge d'or des spectateurs assermentés, c'était ces années 60 jusqu'à 90, enfin, hein, avec l'émergence de fortes personnalités, d'esthétiques infiniment diverses. Mais c'est parce qu'à l'époque, il se passait à l'échelle du monde un désir sinon de révolution, mais du moins de changements radicaux. Qui sont perdus aujourd'hui, me semble-t-il. Il n'y a plus de grands espoirs de modification de la donne politique et ce qu'on appelle la mondialisation nivelle et écrase très fort. Donc on est sûrement sur un théâtre plus défensif qu'offensif, même dans l'histoire des formes, me semble-t-il.
Est-ce que vous marqueriez d'une pierre blanche ou d'une croix, tout simplement, l'année 2005 à Avignon, à laquelle vous consacrez d'assez longues pages dans Qu'ils crèvent les critiques, c'est-à-dire cette année où on a vu une opposition, pour schématiser très rapidement, entre les tenants du texte et puis les autres qui étaient plus pour un théâtre performé, un théâtre dont le texte était... non pas banni, mais en tout cas relégué un peu à l'arrière-plan. Parce que Ralit, il parle du temps des fissures pour Villard, du temps des fractures pour Vitesse. Est-ce que là, il y a eu le temps de quoi ? D'une césure ?
Oui, là, je crois qu'il y a eu une tentative d'OPA sur le festival à partir du post-moderne et de la performance, enfin, de tout ce qui aujourd'hui nous sommes d'affûter sacrément nos armes dans le cahier des charges de la critique, enfin, puisque le théâtre aujourd'hui s'étoffe de la danse, des projections, de la vidéo, enfin nous avons des évidemment il n'est pas question de déplorer la mort du théâtre de texte, le théâtre de texte ne meurt jamais, il est toujours là, nous avons la parole, Dieu merci, on peut continuer à la garder, mais d'autres disciplines interfèrent dans la représentation. Et c'est vrai que là, il nous faut être encore critique, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'extasier sous le prétexte que c'est nouveau et que souvent cette nouveauté, ça n'est que de la vieille avant-garde ressuscée. Enfin, franchement. Mais puis Avignon, c'est spécifique. Le changement d'Avignon, ce que Jourdeuil appelle la festivalisation, fait que c'est un phénomène monstre. C'est une espèce de grand jamboree annuel. Auquel on se rend parce que on est toujours hanté par l'idée de vous découvrir des choses et d'être soulevé, bouleversé, ému, même irrité. Ça fait partie du jeu. Mais c'est une chose énorme qui échappe un peu à tout le monde, me semble-t-il, et qui est fragile parce que il est possible que la plupart des gens préfèrent que le off continue d'exister. Et que disparaisse le in qui semble-t-il trop compliqué, qui décidément échappe au tout venant, quoi. C'est une des questions qui se posent au théâtre, qu'il soit trop séparé du reste du monde, mais il l'est.
Est-ce que ce qui fait la spécificité du critique de théâtre, justement, fort de tous ces spectacles qu'il a vus, c'est de ne pas être dupe?
Oui, c'est très juste ce que vous dites, Joël, mais en même temps, ne pas être dupe systématiquement, ça reviendrait presque à être cynique ou blasé. Il y a une espèce de délicate balance à maintenir, parce que le désir d'être touché, ému, atteint, doit continuer d'être là. Si on se rend au théâtre en service commandé, en pensum, si on se dit « ouais, je vais m'ennuyer, il faut que j'y aille », non, c'est sinistre. Le plaisir doit rester intact. La curiosité, on doit être en éveil sans arrêt. Et c'est ça qui est émouvant, un peu ridicule quand même, parce qu'un type qui va au théâtre au bout de 50 ans et qui se dit « Oh, quelle surprise je vais avoir !» Il a l'air d'un naïf, c'est un innocent.
Vous savez bien qu'on y va pour plus que ce qu'on va voir, Jean-Pierre Lignardini.
On y va pour...
Je ne sais pas pourquoi on y va, mais sinon...
Je sais pas, c'est la question.
On est des fous, je pense.
Je sais bien. On y va pour... je ne sais pas. Mais je dis, moi, dans le livre... C'est une recherche élargie de la scène primitive. C'est fou. Mais peut-être qu'il y a de ça.
Qu'attendez-vous du théâtre, Jean-Pierre Lignardini?
Question piège. Beaucoup, sans illusion, mais en y croyant toujours. Je crois que je ne peux dire que ça.
Ils sont là tranquilles, sans la moindre ville, lorsque l'on panique et que mort de trac, tous nos membres claquent devant le public. Avec un air sombre, ils guettent dans l'ombre.
Grand merci à vous, Jean-Pierre Lignardini, d'être passé nous voir dans une saison au théâtre. Je rappelle la parution de votre livre. Et quel livre. Vraiment, c'est pas souvent qu'on lit des livres pareils avec une telle plume. Qu'ils crèvent les critiques, et non pas les artistes, aux éditions Les Solitaires Intempestifs.
Et que peut-on faire, pauvre peau de terre, vulnérable et seule?
Vous pouvez, et même vous devriez, podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture.
La critique.
Inès Duperron, Pierrick Monsigny, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue. Bientôt 16h sur France Culture, c'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
Frappé de nécrose en lisant ses proses qui, sauf exception, ressemblent aux surprises à des entreprises de démolition. Si certains paniquent et neurasthéniques consultent des psys, d'autres se libèrent, remuent ciel et terre, et tant Dieu merci. Du genre opiniâtre sont prêts à se battre, et pour être mieux, cherchent un autre style, changent de profil, plantent des cheveux. Ça ne change guère, il reste une guerre de papier journal. Fait de mots qui touchent, là où ça fait mouche, là où ça fait mal. La critique, on a beau dire au fond que l'on s'en contrefout. La critique, vous détruit la morale et vous en fout un coup. Sorti du calvaire, des années galères, de crève la faim. Des galas sordides, des soirées habiles, lorsqu'on voit enfin son nom qui se niche en haut de l'affiche, ça fait chaud au cœur. Puis vient la première, où faut se les faire, contrôlant sa peur. Après la soirée, les dés sont jetés, déjà dans le hall. C'est fait le silence, inquiétant et dense, miel ou vitriol. Que ce soit le sacre ou bien le massacre, faudra faire avec. Se dit en coulisses l'artiste au supplice, sans un poil de sec. La critique, on a beau dire au fond que l'on s'en contrefout. La critique, vous détruit le moral et vous en fout un coup. Mais dis-toi que puisque tu as pris tes risques, t'as choisi ton bord, il te faut admettre que le sien est d'être, même s'il a tort. Celui qui informe, même s'il déforme souvent ta pensée. Chacun sa manière et son savoir-faire, chacun son métier. Les articles passent, d'autres prennent place dans les quotidiens. Ainsi va la vie, nul ne s'en soucie, nul ne s'en souvient. Quand l'artiste en scène joue et se démène, rien n'est important. Adieu la critique, salut le public, bravo le talent. La critique, qu'elle vous porte au nu, ou en trois mots vous tue. La critique, donne son unique opinion, et pas forcément du béton. En fin de compte, seul le public a raison.